Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Bonjour à tous, frères et sœurs. On poursuit notre étude sur les leçons attiré de la vie de Saül. Et la méditation d'aujourd'hui porte sur le sujet de la volonté de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu et de sa volonté permissive, telle que nous pouvons la constater dans la vie de Saül. Et ici, dans cette méditation notamment, ce que nous allons voir, c'est non pas se concentrer, nous allons non pas simplement nous concentrer sur le caractère de Saül, mais sur le rôle qu'il a joué vis-à-vis du choix qu'Israël a fait de se choisir un roi, de s'établir un roi sur eux. C'est ce que nous voulons faire et en lien avec cette décision d'Israël, voir quelle était la volonté parfaite de Dieu. Et donc cette étude d'aujourd'hui sur la volonté parfaite de Dieu, elle a pour but de nous aider à comprendre que Dieu permet souvent à ses enfants de suivre un chemin différent de celui qui leur destine. Et pour que, à travers cette leçon, on puisse être poussé à considérer nos voies et à les comparer honnêtement à la volonté parfaite de Dieu. C'est l'objectif de cette méditation. Nous y entrons avec cet objectif en vue, de pouvoir être poussé à considérer nos voies et à les comparer honnêtement aux voies et à la volonté parfaite de Dieu. Donc vous allez avec moi, sans plus tarder, dans 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 9. Donc Samuel, le prophète Samuel, lorsqu'il a commencé à vieillir, a établi ses fils pour juges sur Israël, mais ses fils n'ont pas suivi son exemple et ils ne marchèrent point dans ses voies, verset 3, mais ils s'en détournèrent pour rechercher le gain et ils prenaient des présents et pervertissaient le droit. Les fils de Samuel. Maintenant verset 4. Alors tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent vers Samuel à Rama. Et ils lui dirent, « Voici, tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent point dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme en ont toutes les nations. » Et cette parole déplut à Samuel, parce qu'ils avaient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, obéis à la voix du peuple, en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne point sur eux. Conformément à toutes les actions qu'ils ont faites depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. et de même qu'ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux, ils agissent aussi de même à ton égard. Maintenant donc, obéis à leur voix. Seulement, ne manque point de protester contre eux et de leur déclarer comment le roi qui régnera sur eux les traitera. Et ensuite, au verset 10 à 18, Samuel leur explique ce à quoi ils auront à faire lorsqu'ils se seront obtenus un roi pour les juger comme les autres nations en ont. On lit brièvement, verset 10. « Alors Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui avait demandé un roi, et il dit, « Voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char. Il les prendra aussi pour en faire ses chefs de milliers et ses chefs de cinquantaine, pour labourer ses champs, pour récolter sa moisson et pour faire ses instruments de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra aussi vos champs, vos vignes et vos oliviers les meilleurs et les donnera à ses serviteurs. Il lèvera la dîme de vos grains et de vos vignes et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes et l'élite de vos jeunes gens et vos ânes et les emploiera à ses ouvrages. Il dîmera vos troupeaux et vous serez ses esclaves. Vous crierez en ce jour-là à cause de votre roi, que vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Et ensuite, on poursuit au verset 19. Donc Samuel vient de leur expliquer bel et bien ce à quoi ils étaient confrontés en faisant une telle décision et en rejetant ainsi Dieu, pour qu'il ne règne point sur eux. Mais verset 19, « Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, et ils dirent, « Non, mais il y aura un roi sur nous, et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, et notre roi nous jugera, et sortira devant nous, et conduira nos guerres. » Et Samuel entendit toutes les paroles du peuple, et les rapporta aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Obéis à leur voix, et établis-leur un roi, etc. » Donc vous aurez noté une déclaration ici, clé, qui révèle le motif qui les animait en se choisissant un roi. Au verset 19, il y aura un roi sur nous, et nous serons nous aussi comme toutes les nations. J'aimerais lire ici l'esprit de prophétie pour nous donner une vision élargie de ces pensées que l'on vient de contempler par la parole de Dieu dans le livre Patriarches et Prophètes à la page 591 et au paragraphe 3. Pendant les premiers temps qui suivirent leur établissement en Canaan, les Israélites se conformèrent de bon cœur au principe de la théocratie. Et le peuple prospéra sous l'administration de Josué. Mais l'accroissement de la population et les rapports avec d'autres peuples amenèrent un changement dans les esprits. En adoptant bon nombre de coutumes de ses voisins idolâtres, le peuple perdit en grande partie le caractère saint et particulier qui le distinguait. Peu à peu, leur respect pour Dieu diminua et ils firent moins de cas de l'honneur qu'ils avaient d'être le peuple élu. Éblouis par la pompe et le vain étalage des monarques païens, les Israélites se lassèrent de leur simplicité. D'autre part, la jalousie et l'envie éclatèrent entre les tribus. Affaiblis par ces dissensions intestines, sans cesse exposés aux incursions de ses ennemis idolâtres, le peuple en vint à penser que pour conserver sa dignité parmi les autres nations, il devait s'unir sous un gouvernement central et puissant. En se relâchant de leur obéissance à la loi de Dieu, les Hébreux voulurent être délivrés du joug de leur céleste souverain. Et cette aspiration vers la monarchie devint générale. Donc nous comprenons ici que ce désir de ce choix d'avoir sur eux un roi pour être comme toutes les nations, il découlait d'une perte de leur amour pour Dieu et de leur désobéissance à sa loi. Et nous lisons à ce sujet dans Deutéronome chapitre 17, dans Deutéronome chapitre 17, verset 14. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne et que tu le posséderas et y demeureras, si tu dis « J'établirai un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent », tu ne manqueras pas d'établir pour toi celui que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu établiras sur toi un roi d'entre tes frères. Tu ne pourras point mettre sur toi un homme étranger qui ne soit point ton frère. » Vous voyez ici que Dieu avait prophétisé au sujet du roi d'Israël et de ses guerres. Ici, nous avons notamment le roi. Et Dieu avait fait des provisions pour encadrer sa volonté secondaire ou permissive. Parce qu'il disait, quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, en Canaan, et que tu le posséderas, et il demeurera si tu dis « J'établirai un roi sur moi », alors il donnait ses instructions, ses conseils pour encadrer sa volonté secondaire et permissive. La volonté de ce qu'il permettait, mais pas de ce qu'il désirait pour son peuple. Et si vous allez juste brièvement dans Deutéronome chapitre 20, voyez que là, il faisait aussi des provisions pour le si. Pour si son peuple avait recours à sa volonté permissive au lieu d'obéir à sa voix et d'obéir à sa loi et de suivre sa volonté parfaite. Dans Deutéronome chapitre 20, vous lisez « Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, ne les crains point, etc. » Quand ? Si tu dis « J'établirai un roi sur moi, alors tu ne manqueras pas d'établir pour toi, etc. » un roi que l'Éternel choisit. Donc, Dieu disait, c'est moi qui suis ton roi, comme nous lisons d'ailleurs, dans 1 Samuel chapitre 12, verset 12. Mais voyant que Nakash, roi des enfants d'Ammon, venait contre vous, vous m'avez dit, disait Samuel, non, mais un roi régnera sur nous, bien que l'Éternel, votre Dieu, fût votre roi. Qui était leur roi? Israël était une théocratie et Dieu était le roi d'Israël. Et il avait désigné ses prophètes pour être juges et pour organiser et ordonner son peuple Israël. Mais ces prophètes n'étaient pas rois, mais ils étaient les serviteurs de Dieu. Il vivait dans une théocratie et nous lisons que Dieu, l'Éternel Dieu, était leur roi. Bien que l'Éternel votre Dieu fût votre roi. Et ensuite je lis, encore une fois, l'esprit des prophéties dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 593 et au paragraphe 2. Les plus beaux jours d'Israël avaient été ceux où le peuple reconnaissait Jéhovah comme son roi, et où les lois et le gouvernement établi étaient reconnus comme supérieurs à ceux de tous les autres peuples. À la différence de la condition spirituelle du peuple lorsqu'il désirait, AIENT, se choisir un roi, avoir un roi pour régner sur eux. À ce moment-là, eh bien, ils se relâchaient de leur obéissance à la loi de Dieu et ils désiraient être comme toutes les autres nations, ayant un roi qui les gouverne et partant en guerre avec leur roi à leur tête. Mais les plus beaux jours d'Israël avaient été ceux où le peuple reconnaissait Jéhovah comme son roi et où les lois et le gouvernement établi étaient reconnus par eux comme supérieurs à ceux de tous les autres peuples. Voici ce que Moïse avait déclaré à Israël au sujet des commandements de Dieu. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui, entendant tous ces statuts, diront « Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, « Cette grande nation est un peuple sage et intelligent. » Donc, Israël prospérait lorsque il reconnaissait Jéhovah, l'Éternel, comme son roi et qu'il reconnaissait les lois et le gouvernement établi, leur gouvernement, comme supérieur à ceux de tous les autres peuples. Donc, c'était de beaux jours lorsqu'ils ne désiraient en aucun cas être comme les autres peuples. Mais lorsqu'ils désirèrent, ils commencèrent à être pris du désir d'être comme les autres peuples et de se choisir un roi comme les autres nations, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils commencèrent leur déclin. Je continue par les prophètes. Dieu avait prédit qu'un jour Israël aurait un roi. Mais cela ne prouvait nullement que cette forme de gouvernement fût meilleure ou conforme à sa volonté. Nous commençons ici à rentrer dans le vif du sujet, à savoir vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et pas simplement la volonté secondaire ou permissive de Dieu, mais sa volonté parfaite. Donc Dieu avait prédit qu'un jour Israël aurait un roi, comme nous venons de le lire dans Deutéronome chapitre 17. Mais cela ne prouvait nullement que cette forme de gouvernement, la monarchie, fut meilleure ou conforme à sa volonté, à la volonté de Dieu. Le Seigneur permettait simplement à son peuple de suivre son caprice, puisqu'il refusait de se laisser guider par ses conseils. Osée nous apprend que Dieu leur donna un roi dans sa colère. Osée chapitre 13, verset 11. Quand les hommes, suivez bien maintenant avec moi, frères et sœurs, quand les hommes préfèrent choisir leur propre voie sans demander conseil à Dieu ou contrairement à sa volonté révélée, ils accèdent souvent à leurs désirs. Mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi accède-t-il à leurs désirs comme il a accédé à leurs désirs dans ce choix d'un roi? Parce que c'est même lui qui se réservait ce choix du roi au cas si, au cas où il se mettait à demander un roi, comme nous venons de le lire, lorsqu'ils ont demandé à Samuel place un roi sur nous, nous voulons un roi. Donc il accède souvent à leurs désirs quand les hommes préfèrent choisir leur propre voie sans demander conseil à Dieu ou contrairement à sa volonté révélée, il accède souvent à leurs désirs. Mais pourquoi le fait-il? Nous voulons tirer des leçons de la vie de Saül, parce que Saül fut ce roi qu'ils choisirent, que Dieu choisit pour Israël. Et rappelez-vous, Saül, cela veut dire désirer. Désirer. Il représentait ce que le peuple désirait. Et nous avons vu dans nos études précédentes que ce que le peuple désirait, parce qu'ils s'étaient mis à désobéir à Dieu, à perdre leur amour pour Dieu, ce n'était pas un roi pieux. C'était un roi pour être comme les autres nations. Un roi fort, un roi brave, un roi énergique, oui. Mais les faits leur ont révélé que, quand bien même ce roi leur était attribué et ils se retrouvaient avec le roi qu'ils avaient désiré, eh bien, l'expérience, le résultat en était amer parce que ce roi-là, qu'ils avaient désiré, n'était pas soumis à Dieu. Comme nous l'avons vu, à travers son expérience à Gilgal et à travers l'expérience qu'il a fait par rapport aux Amalécites. Lorsque Dieu lui avait ordonné de détruire de dessus la face de la terre Amalek, de ne laisser personne vivant, Saül a gardé Agag pour sa gloire, le roi des Amalécites, et il a permis au peuple de garder le meilleur du bétail, soi-disant pour offrir à l'Éternel. Donc Saül, ce roi tant désiré par Israël, s'est avéré finalement être un roi apostat, un roi qui n'était pas soumis à la volonté de Dieu et qui voulait sans cesse faire sa volonté. Donc je continue. Lorsque les hommes préfèrent choisir leur propre voie sans demander conseil à Dieu ou contrairement à sa volonté révélée, ils accèdent souvent à leurs désirs, mais c'est pour les amener par les expériences amères qui en résultent à voir leur folie et à se repentir de leur péché. L'orgueil et la sagesse de l'homme sont de dangereux guides. Ce que le cœur désire, en opposition à la volonté de Dieu, s'avérera finalement être une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Et c'est exactement ce que Israël a réalisé lorsque Samuel est mort et qu'il se retrouvait confronté à l'amère réalité d'avoir sur eux un roi qui résistait à la parfaite volonté de Dieu et qui persécutait loin de Dieu David. N'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce que Dieu permet ces choses? Nous voulons tirer des leçons ici. Il accède souvent aux désirs de ceux qui veulent choisir, qui préfèrent choisir leur propre voie, pour les amener, par les expériences amères qui en résultent, les expériences amères qui résultent d'avoir suivi leur propre roi, d'avoir assouvi leur propre désir, d'avoir fait appel à la volonté permissive et secondaire de Dieu, afin que par ces expériences amères-là, ils puissent les amener à voir leur folie et à se repentir de leur péché. Il permet à son peuple, Dieu permet à son peuple de choisir sa propre voie pour que, au final, à travers ces expériences amères qu'ils font, ils puissent être amenés à voir la folie de leur propre voie et de vouloir suivre la volonté permissive de Dieu plutôt que sa volonté parfaite. Et maintenant, vis-à-vis de cette volonté parfaite, parce que là, nous venons de voir que Dieu avait pourvu à cette éventualité où le peuple d'Israël désirerait avoir un roi pour régner sur eux, alors que Dieu fut leur roi, comme nous venons de le lire. Quelle était, maintenant que nous avons vu cela, quelle était sa volonté parfaite en contraste avec cette volonté secondaire? Nous venons de voir que Dieu avait bien une volonté secondaire. Si vous y retournez brièvement, nous avons vu que dans Deutéronome chapitre 17, nous voulons bien affermir cela dans notre esprit. Au verset 14, il dit « Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne et que tu le posséderas et y demeureras, si tu dis « J'établirai un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, alors tu ne manqueras pas de l'établir pour roi celui que l'Éternel ton Dieu aura choisi. » Verset 16, « Seulement il ne se procurera point un grand nombre de chevaux. » Vous voyez ici que Dieu est en train d'ici même d'encadrer sa volonté secondaire et permissive. Seulement il, en parlant du roi, ne se procurera point un grand nombre de chevaux et il ne ramènera point le peuple en Égypte afin d'augmenter le nombre des chevaux, etc. Il ne prendra pas non plus un grand nombre de femmes de peur que son cœur ne se détourne. Vous voyez les provisions qui avaient été faites pour David, pour Salomon et pour tous les rois qui ont régné sur Israël, pour les garder, de tomber plus profond encore dans la désobéissance, mais pour pouvoir les racheter, les sauver en dépit d'avoir choisi leur propre voie. Et vous voyez aussi au verset 18, « Et dès qu'il sera le roi, dès qu'il sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi, qu'il recevra des sacrificateurs de la race de Lévi. Et ce livre sera avec lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à prendre garde à toutes les paroles de cette loi et à ses statuts pour les pratiquer. » Donc cela faisait partie de son encadrement, de sa volonté permissive. Mais maintenant, comme je vous le disais, nous voulons savoir quelles étaient, ça c'était les provisions pour sa volonté permissive, et quelles étaient ses promesses, les promesses de Dieu pour la conquête de Canaan. Exode chapitre 23 et verset, en commençant au verset 20. Et donc nous avons vu lorsque Samuel s'adressait dans 1 Samuel chapitre 12 verset 12 au peuple et qu'il leur expliquait, parce que il était en train d'être déposé pour ainsi dire de sa fonction de juge et de maintenant confier la responsabilité de gouverner Israël à Saül, et il disait, nous y revenons brièvement, il disait, « Mais voyant que Nakash, roi des enfants d'Ammon, venait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, bien que l'Éternel, votre Dieu, fût votre roi. » Quelle était la volonté parfaite de Dieu vis-à-vis de cette situation-là? C'est que l'Éternel soit et demeure le roi d'Israël. C'était cela la volonté parfaite de Dieu vis-à-vis de la royauté, c'est qu'elle n'existe pas. C'est que Dieu devait être le seul roi sur Israël. Et son objectif, c'était de poursuivre cette méthode de gouvernement à travers les juges qui étaient aussi des prophètes. Si vous lisez dans... au verset 10, 1 Samuel chapitre 12, verset 10. Alors ils, le peuple, crièrent à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astaroth. Mais maintenant délivre-nous de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubal et Bédan et Jephté et Samuel. Et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Donc jusque-là, ce fut Dieu qui fut leur roi. Et quand ils crièrent à lui, et qu'ils confessèrent leurs péchés à lui, et qu'ils abandonnèrent leur voie idolâtre, eh bien ce fut lui qui les délivra de la main de leurs ennemis à travers ses serviteurs, à travers ses juges, Jérubal, Bédan, Jephté et Samuel. Mais il disait, mais, verset 12, « Mais voyant que Nakash, roi des enfants d'Ammon, venait contre vous, vous m'avez dit, non, on ne veut plus cela, on veut changer. » Parce qu'ils avaient changé. « Non, mais un roi régnera sur nous, bien que l'Éternel, votre Dieu, fût votre roi. » Et maintenant, voici le roi que vous avez choisi et que vous avez demandé. Et voici l'Éternel a établi un roi sur vous. Donc ça, c'était par rapport au roi. Et maintenant, dans Exode chapitre 23, parce que c'est un sujet qui est souvent mal compris. Et tel qu'on peut le comprendre, eh bien, souvent, l'argument est présenté que ça ne peut pas être un Dieu d'amour s'il ordonne des guerres comme ça, et tant de violence. Eh bien, vous lisez dans Exode chapitre 23. Verset 20. Les expressions de la volonté parfaite de Dieu et de ses promesses pour la conquête de Canaan par la foi et non par la guerre. Voici ici les promesses que Dieu faisait à son peuple pour leur conquête de Canaan par la foi et non par la guerre. Je lis. verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et t'introduira au pays des Amoréens, des Hétiens, des Phéréziens, des Cananéens, des Héviens et des Jébusiens, et je les exterminerai. Verset 27. J'enverrai ma frayeur devant toi, et je mettrai en déroute tout peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis devant toi. Et j'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront les Héviens, les Cananéens et les Hétiens de devant ta face. Je ne les chasserai point de devant toi dans une année, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu te mettes en possession du pays. Voilà ce qu'était la volonté parfaite de Dieu vis-à-vis d'Israël et de sa conquête de Canaan. Qu'a-t-il dit ? J'enverrai ma frayeur devant toi et je mettrai en déroute tout peuple chez lequel tu arriveras. Et quoi ? J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront les Héviens, les Cananéens et les Hétiens de devant ta face. Et vous lisez aussi pour compléter cela dans Deutéronome chapitre 7 qui nous aide bien à comprendre par quels moyens Dieu pourrait chasser et exterminer le peuple de devant la face d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 17. Si tu dis en ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder ? Ne les crains point. Souviens-toi bien de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à tous les Égyptiens. Des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des signes et des miracles, de la main forte et du bras étendu par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel ton Dieu traitera tous les peuples que tu crains. Et même l'Éternel ton Dieu enverra contre eux les frelons jusqu'à ce que ceux qui resteront et ceux qui se cacheront aient péri de devant toi. Ne t'effraie point à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un Dieu grand et terrible. Cependant l'Éternel ton Dieu ôtera ces nations de devant toi peu à peu, tu ne pourras pas en venir à bout promptement, de peur que les bêtes des champs se multiplient contre toi, mais l'Éternel, ton Dieu, te les livrera et les effraiera d'un grand effroi jusqu'à ce qu'elles soient exterminées. Et en anglais, c'est « jusqu'à ce qu'il les ait exterminées », de telle sorte que il n'avait point besoin de sortir l'épée de son fourreau. Quel était le descriptif qui caractérisait bien comment est-ce que lui exterminerait ces nations de devant leur face? Il disait, verset 18, « Ne les crains point, souviens-toi bien de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à tous les Égyptiens. Des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des signes et des miracles, de la main forte et du bras étendu par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel ton Dieu traitera tous les peuples que tu crains. » Comment ? De la même manière qu'il traita les Égyptiens. Et en Égypte, avant que les Hébreux sortent de l'Égypte, eh bien, ils n'ont pas eu besoin d'avoir recours à la violence. Et c'était la même manière de procéder que Dieu proposait à son peuple pour entrer en possession de Canaan. Mais ils ont échoué à adopter, à épouser, à s'attacher à la volonté parfaite de Dieu. Et donc, ils ont décliné dans une monarchie qui donc possédait un roi. Et maintenant, Dieu se voyait dans la nécessité de d'œuvrer à travers le roi. Et c'est pour cette raison que lorsque le roi Saül se montra infidèle, notamment à Gilgal, et ensuite définitivement après avoir affronté les Amalécites, eh bien Dieu dit à Saül, par l'intermédiaire du prophète Samuel, « Voici, le Seigneur t'a rejeté pour n'être plus roi sur Israël, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. » Mais Dieu avait à cœur cette volonté parfaite de mettre, d'envoyer sa frayeur devant son peuple, de telle sorte qu'il n'ait point à faire la guerre. C'était la volonté parfaite de Dieu à cet égard. Et donc je lis l'esprit de prophétie qui nous dit très succinctement ce que nous avons lu dans ces passages, dans Patriarches et Prophètes, à la page 417 et au paragraphe 2. Dieu avait promis à son peuple que s'ils obéissaient à sa voix, il, lui, marcherait devant eux, combattrait pour eux et enverrait des frelons pour chasser les habitants du pays. Il avait promis, c'était sa promesse pour réaliser sa volonté parfaite. Dieu fournit ses promesses divines pour que en nous y attachant et en obéissant à sa voix, nous puissions accomplir sa volonté parfaite. De telle sorte que il peut être dit que Dieu leur a fourmi les promesses pour qu'ils puissent conquérir Canaan par la foi et l'obéissance et non par la guerre. En ayant foi en sa parole et en obéissant à sa voix, ils auraient pu entrer en possession de la terre promise sans faire couler le sang. C'était la volonté parfaite de Dieu. Et nous allons maintenant dans Ésaïe chapitre 55 en lien direct avec cette méditation au sujet de la volonté des voies parfaites de Dieu. En contraste avec les voies imparfaites et mauvaises de l'homme, et son recours constant à la volonté permissive de Dieu, à ce que Dieu permet, plutôt que à ce qu'il commande. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Donc les voies de Dieu sont élevées au-dessus des voies et des pensées de l'homme comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et sa volonté parfaite était élevée loin au-dessus de cette volonté permissive à laquelle les Israélites eurent recours. Et donc pour nous, frères et sœurs, nous voulons utiliser ces leçons que nous tirons de la vie de Saül et des agissements d'Israël pour pouvoir apprendre à marcher en obéissant à la voix de Dieu et en ne nous attachant pas à nos voix et à nos pensées, mais en nous attachant aux voix et aux pensées de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, maintenant que je t'ai communiqué que ma voix parfaite et ma voix permissive sont séparées l'une de l'autre comme les cieux sont séparés de la terre, eh bien que le et que ma voix parfaite et mon désir pour toi, il dit que le méchant maintenant abandonne sa voix, qu'il cesse d'avoir recours à ma volonté permissive, et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. Et que fera-t-il de nous maintenant ? Qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Il dit au verset 3, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et législateur des peuples. Dit celui qui avait pour volonté parfaite de n'avoir point d'autre roi que lui-même pour régner sur Israël. Il dit, j'ai établi David comme témoin auprès des peuples, comme chef et législateur des peuples. Vous voyez ce même langage qui est déclaré dans 1 Samuel chapitre 12 lorsque Samuel exprimait ses profondes remontrances au peuple de Dieu pour avoir ainsi choisi, pour s'être ainsi choisi un roi alors que l'Éternel fut leur roi. Il disait au 1 Samuel chapitre 12 verset 14. Au verset 13, il disait, « Et voici, maintenant, voici le roi que vous avez choisi. Voici, vous avez fait cela. Et Dieu a fait ce que vous vouliez. Voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Et voici, l'Éternel a établi un roi sur vous. Il s'est soumis à votre volonté. Dieu s'est soumis à votre volonté. Il a fait ce que vous vouliez. Il vous a donné votre désir. Mais maintenant, verset 14, que dit-il? Comment Dieu s'adresse-t-il à la personne qui a suivi ses voies et ses pensées, qui sont infiniment inférieures aux voies et aux pensées de Dieu? Il dit maintenant, verset 14, « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle au commandement de l'Éternel, alors, et vous, et le roi qui règne sur vous, vous aurez l'Éternel, votre Dieu, devant vous. » Il disait au peuple maintenant, « Vous avez fait cela. » Mais maintenant que vous avez fait cela, que vous vous êtes demandé, que vous avez demandé pour vous un roi, et que Dieu vous a donné cette faveur de sa volonté secondaire. Maintenant, si vous le servez maintenant, dans cette condition nouvelle, si vous n'êtes point rebelle davantage au commandement de l'Éternel, alors, vous et le roi qui règne sur vous, vous aurez l'Éternel, votre Dieu, devant vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle au commandement de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Et verset 18. Alors Samuel cria à l'Éternel, et l'Éternel fit tonner et pleuvoir en ce jour-là, et tout le peuple craignit fort l'Éternel et Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions point, car nous avons ajouté à tous nos autres péchés le tort d'avoir demandé un roi pour nous. » Vous entendez ici de la bouche du peuple d'Israël une confession que le fait de s'être demandé un roi pour eux, c'était un péché. Verset 20, écoutez maintenant. « Alors Samuel dit au peuple, ne craignez point, vous avez fait ce mal, néanmoins ne vous détournez point d'après l'Éternel, mais servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez point, car ce serait aller après des choses de néant qui ne profitent ni ne délivrent, parce que ce sont des choses de néant. Car l'Éternel n'abandonnera point son peuple. » Vous entendez ici la voix de Dieu vis-à-vis d'un peuple qui a suivi ses voies et qui n'a pas suivi les voies saintes et parfaites de Dieu. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. Si vous n'êtes plus davantage rebelle maintenant, si vous craignez l'Éternel, si vous obéissez à sa voix, car l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a voulu faire de vous son peuple, et pour moi, dit Samuel, Dieu me garde de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous, mais, écoutez bien, frères et sœurs, mais, je vous enseignerai le bon et droit chemin. Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez les grandes choses qu'il a faites en votre faveur. Que si vous faites le mal, vous serez détruits, vous et votre roi. Que dit maintenant Samuel ? À la lumière de toutes les choses qui ont été faites et de l'exhortation à craindre maintenant l'Éternel, il dit je ne cesserai pas de prier pour vous, mais je vous enseignerai le bon et droit chemin. Ce qui nous ramène vers ce passage de Ésaïe chapitre 55 où Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Maintenant, je vous enseignerai le bon et droit chemin. Même si nous avons fait la volonté secondaire de Dieu, et nous n'avons pas fait la volonté parfaite de Dieu, Dieu dit maintenant, venez à moi, que le méchant abandonne sa voie imparfaite, et qu'il retourne à l'Éternel pour écouter sa voix et pour faire sa sainte volonté, qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Il nous enseignera le bon et droit chemin. Tout en nous pardonnant nos péchés, en nous donnant l'assurance du pardon et de notre réconciliation. Je lis ici, dans l'esprit de prophétie, encore une fois, dans le livre « Conseil aux éducateurs, parents et étudiants » à la page 283, au paragraphe 3. Le Seigneur désire que ses intendants s'acquittent fidèlement de leurs tâches en son nom et par sa force, en plaçant leur foi dans sa parole. En mettant ces enseignements en pratique, ils remporteront victoire sur victoire. Mais quand des hommes s'écartent des principes de la justice, ils se mettent à avoir une opinion élevée de leurs qualités et facultés propres et inconsciemment à s'exalter eux-mêmes. Le Seigneur les laisse alors marcher seuls et suivre leur propre voie. Il leur donne ainsi l'occasion de se voir tels qu'ils sont et de montrer leur défaillance aux autres. Il cherche, lui, Dieu, cherche à leur enseigner qu'il faut toujours suivre de près la voie du Seigneur, qu'il faut lire sa parole sans rien y changer, ne pas concevoir et faire des plans selon leur jugement propre et dans l'irrespect de ses conseils. Donc lorsque nous faisons notre propre voie, que fait Dieu? Il nous laisse alors marcher seuls et suivre nos propres voies. Il nous donne ainsi l'occasion de nous voir tels que nous sommes et de montrer, de révéler nos défaillances aux autres. Et ainsi, par cette double révélation à nous-mêmes et aux autres, eh bien, Dieu nous amène à une position où nous pouvons discerner la folie de nos voies et que nous puissions nous repentir de notre péché. Donc, ça nous ramène à notre passage, notre lecture biblique de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et ici je lis, tel que c'est écrit dans la Bible Martin, « Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. » Donc nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, ou comme c'est écrit ici, à ce présent siècle, à cette dernière génération, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Pourquoi ? Afin que nous éprouvions quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit pour pouvoir discerner et connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et pas simplement sa volonté secondaire, car il a bel et bien une volonté secondaire et permissive, comme nous l'avons vu de manière on ne peut plus claire. Et donc, comment est-ce que nous ferons, frères et sœurs, pendant que nous clôturons notre méditation? Nous voulons terminer sur une note bien claire vis-à-vis de notre devoir quant à cette nécessité d'avoir une connaissance personnelle et intérieure de la volonté de Dieu qui est parfaite. Comment est-ce que nous ferons cela? Comment est-ce que nous serons renouvelés dans notre esprit pour pouvoir éprouver quelle est la volonté parfaite de Dieu? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 3, nous avons un début de réponse. Nous obtenons ici, à travers le dialogue avec le Seigneur dans sa parole, à la fois des questions suscitées par des passages peut-être qui nécessitent davantage d'explications et des réponses. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 3. C'est ici en effet la volonté de Dieu. Ah, tiens. Et Dieu va nous parler de sa volonté parfaite. Hein? S'il parle d'une volonté secondaire, il aurait dit ainsi. Nous l'avons vu dans Deutéronome chapitre 17. Si vous faites cela. Il avait bel et bien exprimé très clairement ce qu'était sa volonté secondaire. Et ici, dans l'évangile, Dieu nous exprime la volonté, sa volonté parfaite. Et il nous dit, car c'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. C'est la volonté de Dieu, que nous soyons sanctifiés. Que nous soyons entièrement sanctifiés. Pas simplement en partie. Et vous y allez, en fait, nous faisons un détour par Matthieu chapitre 5, verset 48, pour qu'il n'y ait aucune mécompréhension vis-à-vis de cette volonté de Dieu. Nous venons de lire que c'est ici la volonté de Dieu que vous soyez sanctifié. Et Jésus disait dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc à quel point sanctifié? Soyez donc parfait, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Donc la volonté de Dieu, sa volonté parfaite, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés jusqu'à la perfection, que nous soyons parfaitement et entièrement sanctifiés. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et dans Jean chapitre 17, nous faisons ici les simples liens de la parole de Dieu. Jean chapitre 17, versets 17 et 19. Vous avez ici la prière sacerdotale de Jésus au Père. Et il disait, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Quel est ici l'élément pour notre sanctification? L'élément par lequel nous pourrons être renouvelés dans notre entendement, dans notre esprit, pour pouvoir éprouver quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Jésus nous l'a donné. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Hein, c'est ici la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. Il dit, sanctifie-les comment? Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comment aurons-nous donc ce renouvellement de notre esprit? Par la vérité, par la parole qui est la vérité. Donc, notre entretien, notre communion avec Dieu dans la parole, c'est ce qui nous permettra de discerner entre nos voix et les voix de Dieu, entre la volonté secondaire de Dieu et sa volonté parfaite. C'est l'élément indispensable, la parole de Dieu, qui nous permettra de d'éprouver et de comprendre et de connaître avec sans l'ombre d'un doute quelle est la volonté parfaite de Dieu pour que nous puissions, à travers la communion avec Dieu dans sa parole, obéir, entendre et obéir à la voix de Dieu quant à sa volonté parfaite. Et verset 19, il ajoute à ne pas manquer. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Hein? Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il dit, moi-même, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il a dit, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc notre sanctification, frères et sœurs, c'est à travers la parole de Dieu et l'exemple de la sanctification de Jésus que nous obtenons une vision claire et complète de la parfaite volonté de Dieu. Et cette connaissance en nous nous maintient sur le sentier de la sanctification vers la perfection. À travers Jésus, à travers la parole, comme nous lisons dans Jean chapitre 1, au commencement la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole, verset 14, a été faite chair et a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, à travers à la fois la lecture de la parole et la communion avec Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, eh bien, nous obtenons une connaissance de la volonté parfaite de Dieu, à la fois théorique et pratique. Et dans Éphésiens, nous allons conclure notre méditation. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 17, où l'apôtre nous dit sous l'inspiration, c'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas sans prudence. Ou comme c'est écrit en anglais, ne soyez pas sans sagesse. Ne vous permettez pas de raisonner selon vos propres pensées et vos propres voies. ne soyez pas sans prudence, soyez prudent et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comment? À travers un examen profond et attentif de la parole de Dieu, vis-à-vis de chaque élément qui nous concerne et qui serait en nous peut-être des voix qui sont simplement nos voix et qui ne sont pas les voix élevées de Dieu. Et verset 25, nous continuons. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez ici le lien avec ce que Jésus a dit dans sa prière, dans Jean chapitre 17 que nous venons de lire. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Pourquoi, comment Jésus, Christ a-t-il aimé l'Église? Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans quel objectif? Avec quelle perspective en vue? Afin de la sanctifier, c'est ici la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, afin de la sanctifier en la purifiant, comment? Et en la lavant par l'eau de la parole. Donc Dieu nous se propose et nous propose de nous laver de nos voies par la purification, la sanctification et le lavement de l'eau de sa parole. Et cela veut dire que vu que c'est une parole écrite, il nous faut y être attentif et la lire abondamment. Comme c'est écrit que la parole, autre part, que la parole de Christ demeure abondamment en vous. Donc nous avons besoin de la parole de Christ demeurant abondamment en nous pour avoir une connaissance abondante de la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Dans cet objectif-là, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous avez ici une référence, une allusion directe aux déclarations que nous trouvons dans Jean chapitre 14, versets 1 à 12. C'est ici le peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce sont ici ceux qui sont sans tache devant le trône de Dieu, les 144 000. Puissions-nous, frères et sœurs, tirer des leçons de la vie de Saül et de l'histoire du peuple de Dieu et chercher sans cesse et prendre à cœur les choses qui nous ont été révélées aujourd'hui au sujet de la volonté parfaite de Dieu pour ne plus faire notre volonté mauvaise et imparfaite, mais pour abandonner nos voies et venir à l'Éternel, pour qu'il puisse nous laver par l'eau de sa parole, dans cet entretien vivant, tel que nous en avons eu un petit extrait. Mais il s'agit pour nous que sa parole demeure abondamment en nous, pour que nous puissions avoir une vision éclairée et en haute définition de sa volonté parfaite et que cette volonté fasse partie intégrante de nous, que nous permettions à ces choses de nous imprégner pour obéir à la voix de Dieu. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse et nous accompagne pour nous rappeler ces choses par son Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher dignes de cette haute vocation. Amen.